Salut à tous et salut à tous.
Oh.
Bienvenue à ce Musicorama assez génial.
Oh, ok, vous ne faites pas d'erreur. Vous êtes bien connectés sur la radio sans concession.
Now in darkness, world stops turning. Ashes where the body's burning.
L'attitude actuelle commence à me polluer ferme. Ce qui n'était que provisoire s'est installé à long terme.
Radio provisoire.
Hello. Turn on the radio. I'm talking to you. I'm talking to you.
You're being grotesque.
Pretty late.
Why don't you switch on the radio?
Bonjour et bienvenue sur PFM Radio 99.9 dans l'émission Décibel, l'émission très LGBT aujourd'hui. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Margot.
Bonjour.
Shruti.
Salut.
Morgane.
Salut.
Laura.
Salut.
Et Charlotte.
Salut.
Et nous allons aujourd'hui parler de LGBT. En effet, dans quelques jours, nous entrons dans le mois de juin, le mois des fiertés en France. Et dans presque un mois, nous sommes à la Gay Pride. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par évoquer l'histoire de l'homosexualité avec Margot.
Exactement. Alors comme vous devez vous en douter, l'homosexualité n'est pas d'aujourd'hui. Elle a parcouru toute l'histoire. Être gay, lesbienne, bi, trans, queer, intersexe ou asexuel a toujours été présent. Et cependant, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on entend plus parler. Dès l'Antiquité, les hommes avaient des relations entre eux. Souvent, celui qui avait le plus de pouvoir pénétrait l'autre. De plus, chez les Spartes, on envoyait souvent des amants combattre ensemble afin de ne pas voir des soldats qui abandonnent le combat. Nous avons aussi dans l'Antiquité, du côté des femmes, avec la poète Sappho, qui a vécu dans l'île de Lesbos. Elle décrivait que là-bas, elle célébrait le désir et l'amour entre elles. Durant le Moyen-Âge, l'homosexualité a d'abord été tolérée. Puis elle a été interdite, considérée comme contre-nature. Puis, durant la Renaissance, l'homosexualité était vue comme le mal venant de l'Italie. Cependant, les rois avaient leur mignon. C'est aussi à cette période qu'un discours hostile se met en place sur l'amour entre femmes. Cependant, dans l'entourage des rois, l'homosexualité était présente, comme nous le raconte Saint-Simon par rapport à Monsieur, frère de Louis XIV, ou encore les rumeurs de l'homosexualité de Louis XIII, dont il aurait eu une aventure avec le père de Saint-Simon, ce qui lui a valu son titre de duc et père de France. À la Révolution française, l'homosexualité n'est plus condamnée ni passible de la peine de mort. C'est en 1869 que le mot « homosexuel » apparaît dans les textes, tandis que le terme « hétérosexuel » apparaît en 1923. Durant la Seconde Guerre mondiale, les homosexuels étaient envoyés dans les camps. Plus de 5000 à 15000 de personnes ont été envoyées pour leur orientation sexuelle. Les hommes avaient des étoiles roses, tandis que les femmes avaient des étoiles noires. L'homosexualité a été aussi classée comme maladie mentale. En 1969, commence la première Pride. En effet, après une descente de policiers dans un bar homosexuel, qui a créé une contestation des clients du bar en question, et cette manifestation a duré pendant 3 jours. L'année d'après, cette manifestation sera commémorée, mais pacifiquement, à la même période. Et cela, c'est ce qui a créé les Prides d'aujourd'hui. En 1982, l'homosexualité est dépénalisée en France. 8 ans plus tard, l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale par l'OMS et le terme homophobie apparaît dans les dictionnaires 2 ans après. C'est en 2013 que le mariage pour tous fut voté par le Parlement puis promulgué par le président. La France est le 9e pays européen à reconnaître ce droit. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir afin que l'homosexualité soit acceptée par tous et partout, mais c'est déjà un bon moment, un bon avancement.
Merci beaucoup pour ce petit rappel historique, Margot. Merci. Tout de suite, nous évoquons les symboles et autres drapeaux avec Shruti.
Oui, alors, qui dit Pride Month dit Pride March. Et qui dit Pride March dit fête, manif et bien sûr le drapeau Pride. Vous connaissez déjà le drapeau arc-en-ciel, hein, mais il n'est pas le seul et vous allez certainement en voir plusieurs tout au long du mois. Donc voici un petit guide pour les reconnaître. Donc tout d'abord le drapeau arc-en-ciel qui a été créé en 1978 par le militant LGBT+ du San Francisco Gilbert Baker. Ce drapeau à six couleurs représente la diversité des orientations sexuelles et des identités au sein de la communauté, la paix, la harmonie et la sexualité comme étant un phénomène naturel, tout comme un arc-en-ciel.
C'est joli.
Je vais vous faire deviner, les filles, le prochain drapeau. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Transgenre.
C'est bien le drapeau transgenre qui reprend les couleurs bleu et rose qui sont traditionnellement associées avec les genres masculin et féminin. Il est donc composé de 5 raies dans l'ordre suivant, de haut en bas, bleu, rose, blanc, rose et bleu. Le blanc représente la neutralité du genre pour les personnes en transition, à genre ou neutre. Et puis, il y a clairement la symétrie de ces genres qui y est représentée. Ensuite, le drapeau lesbien. Alors, ce drapeau-là a une histoire un peu controversée. Le drapeau à l'origine était composé de différentes nuances de rose pour symboliser la féminité. Mais en 2018, un nouveau drapeau apparaît afin de lutter contre la dictature de la féminité unique qui n'était pas suffisamment représentative. Donc ce drapeau aujourd'hui est composé de rouge, orange, blanc, rose et puis rose foncé. Le quatrième drapeau, ça aussi je vais vous faire deviner les filles.
Ok.
Celle-ci, ça vous dit quelque chose hein?
C'est bisexuel.
Ouais.
C'est bien ça. Alors le drapeau de la bisexualité. Le rose, violet et bleu, apparu pour la première fois en 1998. Le rose représentant l'attraction sexuelle du même sexe, le bleu du sexe opposé et le violet au milieu pour symboliser le mélange des deux, donc la bisexualité. Et enfin, le drapeau de la pansexualité. Ce drapeau a été créé pour représenter le refus de la binarité masculin-féminin des genres et des sexualités. Ainsi, le drapeau pansexuel représente les personnes attirées par tous les genres existants. Le rose pour l'attirance vers les femmes, le bleu pour l'attirance vers les hommes et le jaune au milieu pour symboliser l'attirance vers les personnes non binaires. Il y a encore plusieurs drapeaux Pride que vous allez voir dans les rues et dans les médias et peut-être allez-vous vous poser la question, mais pourquoi autant de drapeaux pour une même lutte ? Déjà, toute lutte sociale a besoin de symboles comme les drapeaux pour pouvoir affirmer son identité et pour que les gens qui participent à cette lutte puissent aussi affirmer leur positionnement à côté de leurs semblables. Et deuxièmement, l'existence de ces différents drapeaux sert comme un rappel que l'identité queer est multiple et chacun et chacune a sa juste place dans la lutte avec des symboles qui lui ressemblent.
Merci beaucoup pour cette clarification, Shruti. J'ai déjà hâte de voir les rues pleines de couleurs. Tout de suite, nous vous laissons avec une interlude musicale, l'hymne lesbien par excellence, I Wanna Be Your Girl, The Girl in Red.
I wanna kiss your lips.
Maintenant, après avoir un peu évoqué l'histoire, les symboles, entrons directement dans le sujet. Morgane nous évoque l'importance des minorités dans notre société.
Déjà, il faut savoir que les victimes mises sous pression par la nécessité de dissimuler leur orientation sexuelle sont davantage sujettes à des troubles psychosociaux, tels que l'anxiété, une mésestime de soi ou une dépression. Du fait de dissimuler une partie de soi contribue également à l'isolement. Selon une association qui s'appelle L'Autre Cercle, une personne LGBTQ+, sur deux, ont eu récemment des pensées suicidaires en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, car ayant subi des moqueries ou des propos vexants, allant parfois au harcèlement. Parler de la communauté et accepter cette communauté LGBTQ+, c'est accepter toutes les différences que possèdent les individus. Nous ne sommes pas obligés d'être dans les cadres sociaux hétéronormés pour être heureux. C'est pour cela qu'il faut parler de toutes les minorités, laisser les mêmes droits à tous et à toutes, pour éviter que notre société soit un lieu de mal-être, de folie furieuse contre toutes les différences. De plus, si on augmente les droits de toutes les minorités, on augmente les droits de tous. Mais augmenter l'acceptation, c'est accepter ce que nous sommes. Un pays qui est répressif contre les LGBTQ+, c'est un pays où les droits de l'homme sont bafoués. Droits de humains, on va dire, plutôt. Ce sont des pays où il faut refouler son orientation pour éviter de mourir, ou même d'être torturé, au péril d'un désastre psychologique. Plus nous accepterons toutes les différences qui font que cette société est multiple et belle, plus les querelles, la violence s'arrêteront. Il faut donc se battre en parlant pour ces droits qui sont nos droits à tous et à toutes. Parler des LGBTQ+, c'est parler de tous.
L'acceptation, c'est compliqué, Laura, quand on sait que l'homosexualité, c'est contre nature.
Eh ben, on va en parler. Donc, les amis, on va faire un petit tour d'horizon de la thématique imposée.
Eh, c'est pas beau de mentir, hein, t'étais une des premières à le valider.
C'était pour vérifier si t'avais compris ton rôle.
Eh, ça va, je suis pas bête. Je peux comprendre quand tu dis argument débile, contre-argument utile. Vous l'aurez compris, je m'attaque aux absurdités sur la communauté LGBTQA+, et sur le mariage pour tous. Premier exemple, le bandana, foulard carré avec motif imprimé. C'est un signe d'appartenance de la communauté, et puis la couleur et la position, ça renseigne sur les pratiques et les préférences sexuelles. Je le savais.
Quoi ? Que Renaud était gay ?
Mais non, Woody.
Quoi, Woody ?
Woody, il est un peu plus proche qu'on ne pourrait le croire de Buzz l'éclair.
Ah non, on commence pas à parler des jouets. Va falloir parler enfant, et qui dit enfant dit un papa plus une maman. Et même si on a bien un ou une pour jouer le rôle de l'homme ou de la femme...
Franchement, je crois que les enfants, tant qu'ils reçoivent de l'amour, ils préfèrent leur nouveau jouet à des réflexions d'adultes. Hein. Ouais, mais imagine... Si ce sont des enfants issus d'une insémination artificielle ou de la GPA, comment tu veux qu'ils comprennent l'essence même de leur existence ? T'es sûre qu'on a les mêmes parents ? Non, parce que les miens, si je leur demande comment on fait les bébés, ils vont me sortir l'histoire de la cigogne ou de la petite graine. Sûrement pas que papa fait crac-crac avec maman. Hein. Mais c'est pas un peu contre nature quand même ?
Bon, essaie déjà de rester concentré 2 minutes devant un documentaire et on en reparle.
Bon, puisqu'on parle biologie. Un homme qui devient une femme, biologiquement, ça reste un homme, non ? Non, ça c'est seulement sur la carte vitale. Et seulement si la sécu est pas assez réactive. Ouais, bon, bref. De toute manière, tout ça c'est une histoire de mode. La preuve en est... Ils sont plus qu'avant.
Ouais, les conneries aussi sont plus nombreuses qu'avant. Hein. La preuve en est qu'avec tout ça, on va pouvoir écrire un livre absurde de plus de 1000 pages facile.
Quelle belle remise à sa place, Laura, merci beaucoup. Maintenant, nous accueillons Charlotte et Morgane, qui vont nous faire un petit débat. Sur quoi porte le débat, Charlotte ?
Sur apparemment les bisexuels seraient transphobes.
Ah ouais ?
Pas que. Ouais.
Girls,
Alors, j'ai entendu à plusieurs reprises qu'apparemment, si on appartient à la communauté bisexuelle, on serait transphobe parce qu'on accepte la binarité des choses. Sauf que, personnellement, étant bisexuelle, peu m'importe qu'on soit queer, qu'on soit intersexe, qu'on soit non-binaire. C'est juste que, dans le sens où, pour les transsexuels, si un homme veut devenir une femme, pour moi, ce sera une femme. Ce ne sera pas une personne trans. Je ne vais pas la définir par sa transition, mais par son identité qu'elle désire désormais. Donc, au contraire, je ne suis pas du tout transphobe.
Après, tu vois, quand moi aussi je me sens bisexuelle, c'est parce que je considère que je suis attirée, quand je suis attirée par une femme, je vois bien qu'elle est une femme, qu'elle soit trans ou pas. Et si je suis attirée par un homme, je vois bien qu'il est un homme. J'ai conscience de son genre. En fait, c'est peut-être pour ça qu'ils disent que nous sommes transphobes. C'est parce que juste, on voit, on a conscience du genre de l'autre, en fait. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est pour ça que la communauté bisexuelle, elle est vraiment très refoulée dans la communauté LGBTQ+, en fin de compte, parce qu'on est toujours un peu exclu, parce qu'on accepte le roux, enfin, comme le bleu ou le rose, comme Shruti a dit.
On a le violet qui mélange les deux.
Et ouais, et on est violet.
C'est pas une belle couleur.
C'est une très belle couleur. Mais du coup, en fait, on n'est pas du tout transphobe. C'est juste qu'on a conscience de pas mal. Enfin, on a conscience de ce qu'on est déjà. Et c'est déjà pas mal.
Voilà. Donc, les bisexuels ne sont pas transphobes, point. Et on est amis avec les pansexuels.
On est amis avec tout le monde.
On va former un nouveau drapeau avec plein de couleurs. C'est joli.
Ouais.
Merci beaucoup. Et maintenant, I Kissed a Girl de Katy Perry.
Sur PFM 99.9. Et tout de suite, je vous propose de continuer avec Oriane qui va nous parler pinkwashing et avec qui on va faire un petit jeu.
Merci beaucoup. En effet, le mois des fiertés approche, les marches des fiertés commencent dans les grandes villes de France et on voit ainsi apparaître le célèbre drapeau arc-en-ciel et ses dérivés aux couleurs pimpantes un peu partout. chaussures, sacs, sous-vêtements et même nourriture, toutes les marques et grandes entreprises semblent soudain avoir un pic d'intérêt pour la cause LGBT. Alors pinkwashing ou réel soutien aux LGBTQ+, comment faire la différence? Mais le pinkwashing, qu'est-ce que c'est? Le mot pinkwashing est un néologisme, un anglicisme tiré de whitewashing, qui signifie en anglais blanchiment d'argent, au sens moral. C'est lorsqu'une marque décide de s'afficher aux couleurs LGBT dans un but purement lucratif et publicitaire. Il y a alors plusieurs critères à vérifier lorsque l'on voit une publicité pour un article qui semble soutenir le mouvement en plein mois des fiertés. Premièrement, la marque a-t-elle une politique LGBT-friendly le reste de l'année? Depuis combien de temps l'enseigne tient-elle cette politique? Si elle n'est qu'opportuniste et ne fait jamais intervenir de personnes non-binaires, de couples de même sexe ou encore de mannequins gender fluide, alors c'est rédhibitoire. Marquer le coup seulement pour le mois des fiertés, c'est un coup de pub, pas un soutien à la communauté. Deuxième étape. La marque a-t-elle une politique interne ouverte et tolérante? Si les produits sont fabriqués dans des pays dans lesquels les homosexuels n'ont pas de droits et sont persécutés, tous en cœur,
c'est du pinkwashing.
Si la marque est connue pour être discriminante et homophobe dans ses recrutements,
c'est du pinkwashing.
Si des clients ou des salariés bi, gays, lesbiennes, transgenres ou queer en général se plaignent d'un mauvais traitement dans l'entreprise dû à leur statut,
c'est du pinkwashing.
Enfin, on peut aussi se demander si les recettes de la marque contribuent à financer des associations qui soutiennent les droits des personnes LGBT. C'est ce que souligne Flora Butler, co-directrice de l'Observatoire LGBTQ+, de la Fondation Jean Jaurès au Hufflepost. Attention, si à côté de ça vous financez la Manif pour tous, ça compte pas. On vous voit, Michel et Augustin. Maintenant, place à un petit jeu, pour voir si vous avez bien suivi. Je vais vous citer des marques, à vous de me le dire, d'après vous. Allié ou pinkwashing?
Ok.
Calvin Klein.
Allié.
Pinkwashing.
Ah non, c'est fait au Bangladesh, donc non, c'est
ouais, pinkwashing.
Déjà, ouais. Et sa dernière campagne publicitaire de 2019 avait fait scandale. En effet, on y aperçoit s'embrasser le mannequin Bella Hadid et l'influenceuse virtuelle Lil Miquela, qui sont deux personnes hétérosexuelles. Et les internautes ont notamment dénoncé l'usage de cette image qui incarne le fantasme masculin de deux femmes qui s'embrassent. Mmh. Bref, pinkwashing. Coca-Cola.
Oh, pinkwashing.
Ouais. Déjà connu pour être un adepte du greenwashing, en 2020, l'entreprise demandait à Marcus, un jeune influenceur suisse connu pour son contenu LGBT, de poster quelques posts en lien avec Coca-Cola dans le but de soutenir une loi qui étendait la norme pénale antiraciste à l'orientation sexuelle. Se réveillant seulement 3 semaines avant le passage de cette loi, Coca-Cola fait preuve ici d'un pinkwashing à peine dissimulé. Levi's.
Non.
Allié.
Ouais, en effet, c'est le premier en 1992 à offrir aux partenaires du même sexe l'accès aux indemnisations. Adidas.
Pinkwashing.
Ouais. En 2018, Adidas fait du merchandising de Pride et en même temps soutient la Coupe du Monde en Russie. Donc, pas ouf niveau LGBT. Converse.
Allié,
ouais. Ouais. Elle reverse une grosse partie de ses bénéfices à des associations dont le It Gets Better Project, qui est un projet qui réunit des témoignages LGBT. Enfin, pour finir, Nike.
Pinkwashing.
Ouais. La marque se vantait d'avoir versé depuis 2012 3,6 millions de dollars aux associations LGBT. Elle en touche 36 milliards par an. Mais bon. Et puis, il y a eu un léger scandale en 2018, lorsque, avec sa collection Bitrou, elle a utilisé le triangle rose, qui est un symbole fort de la lutte LGBT. Il était utilisé à l'origine pour identifier les personnes LGBT durant la Seconde Guerre mondiale. ACT UP New York a dénoncé cette appropriation en expliquant que les entreprises privées n'ont pas l'autorité de s'approprier l'image de résistance queer. Bref, beaucoup trop de compagnies qui utilisent le pinkwashing. Faites attention.
Exactement.
Merci.
Maintenant, on passe à Charlotte, qui va nous parler des figures LGBT et autres stars qui soutiennent la cause.
Alors justement, tu as parlé de Russie, et donc j'évoque Elton John, qui je pense, on le connaît bien tous, qui est très engagé, notamment dans la lutte contre le sida, mais aussi toutes les discriminations envers la communauté LGBT. Et il a d'ailleurs lancé un appel à Poutine, donc notre cher président de la Russie, pour le rencontrer, afin de discuter sur certaines mesures qu'il a pu mettre en place qui sont très limitantes pour les droits des homosexuels. On a notamment la loi de juin 2013 qui interdit la propagande homosexuelle. On a aussi la petite anecdote avec Lady Gaga, qui lors d'une de ses performances, je pense que c'était à Moscou, si je ne me trompe pas, elle a été menacée d'être arrêtée et enfermée si elle évoquait la communauté LGBTQ+, et... Elle a clairement dit sur scène qu'ils viennent me chercher, ils mourront jamais. Pour d'autres exemples comme ça qui veulent un peu montrer qu'on peut se libérer aujourd'hui, il y a par exemple Harry Styles, qui est le premier homme à faire la couverture de Vogue et en robe. Ce n'est quand même pas quelque chose de très courant, donc on peut montrer que les hommes peuvent porter des robes, que ce n'est qu'un habit, donc tout le monde porte ce qu'ils veulent. Et en plus, il évoque une possible bisexualité dans ses dernières chansons comme Medicine, où il dit qu'il aime bien flirter avec l'un et l'autre. Bon, on n'en sait pas trop plus, mais ça ouvre la porte à quelque chose. Très récemment, on a aussi le coming out non-binaire de Demi Lovato. Et il y avait déjà celui, quelques années auparavant, d'Elliot Page, qui vient de The Umbrella Academy. Et enfin, j'ai voulu parler de quelqu'un qui me tient très à cœur, c'est Dan Reynolds, qui est très connu pour lutter énormément dans tout ce qui est communauté LGBTQ. Donc il lutte contre les thérapies de conversion notamment, c'est-à-dire que c'est homosexuel, c'est pas bien, faut que tu deviennes hétérosexuel, ou des personnes transgenres, c'est pas bien, tu dois rester dans la norme comme on dit. Il lutte également contre tous les extrémistes catholiques qui disent « Non, mais Jésus, il a dit de faire ça, donc faut faire ça. »
Il a bon dos.
Et lui, étant même le chef des mormons dans je ne sais plus trop quel endroit, eh bien, il dit justement qu'il a été élevé catholique, qu'il est pratiquant, qu'il a toute cette foi, mais qu'il est à fond. Il dit justement « Jésus, ben, faut accepter. » Donc c'est qu'une une connerie de dire « Non, mais Jésus, il a dit qu'il fallait pas faire ça. » Dan Reynolds, il était aussi à l'origine du festival de musique Love Loud, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été mis en place dès 2017. Et donc il invite plusieurs de ses amis artistes. Et tous les bénéfices du festival sont reversés à une association LGBTQ+ du pays. Il a aussi fait don de sa maison de Las Vegas, sa maison d'enfance, qui du coup aujourd'hui vaut beaucoup, beaucoup toujours. Il en a fait don à l'association Uncircle. Et ça va servir de lieu d'accueil pour tout jeune LGBTQ+, qui aurait besoin d'un abri, comme on peut connaître le refuge en France.
C'est super tout ça.
Quel homme ce Dan.
Il est parfait.
Il est parfait.
Imagine Dragons est parfait dans son entièreté.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Charlotte. Merci beaucoup à vous tous.
Merci.
C'était une très belle chronique. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Et je vous laisse tout de suite avec Stupid Bitch de Girl in Red, là encore. You don't know what you deserve.
for you.